Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité européenne. Aujourd'hui, toujours trop de produits chimiques dans les fruits et légumes turcs, la possible légalisation du cannabis en Serbie, la folie des genres dans les manuels scolaires autrichiens, la collation du matin remise en cause en France et enfin les grands musées d'Amsterdam qui se diversifient pour générer plus de recettes. Les agriculteurs turcs utilisent moins de produits chimiques que ceux d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Pourtant, comme l'a révélé il y a 3 ans une étude de l'ONG environnementale Greenpeace, c'est dans les fruits et légumes turcs que l'on trouve le plus de traces de substances chimiques en Europe. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Quelles sont les options pour les producteurs turcs qui veulent se tourner vers une agriculture plus saine, voire bio ? Anne Andlauer a mené l'enquête dans la région Égéenne, celle qui, avec la région méditerranéenne, est de loin la plus touchée par ce problème en Turquie.
Jour de marché sur la place principale de Seferihisar. Les agriculteurs de ce district au sud-ouest d'Izmir, sur la côte Égéenne, étalent leurs produits de saison. Tomates, oranges, salades, citrons s'offrent en petite pyramide à côté des dernières mandarines de l'hiver, spécialité de la région. Contrairement au marché du samedi, celui-ci n'est pas organique, comme on dit en turc, c'est-à-dire que ces fruits et légumes ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Comme l'écrasante majorité des fruits et légumes de Turquie et du monde, ils ont poussé sous l'effet d'engrais industriels et autres produits chimiques de synthèse. Ahmet Yaşar, agriculteur de père en fils, explique pourquoi 2 fois l'année, il asperge de ses produits, ses mandarines et artichauts.
Que ça me plaise ou non, c'est obligatoire. Sinon, mes artichauts et mes mandarines se couvrent de taches brunes à cause des insectes. Le goût ne change pas, mais l'apparence est gâchée. Et ça ne plaît pas aux consommateurs.
En matière d'usage d'engrais chimiques, de pesticides, herbicides et autres fongicides, l'agriculture de ce pays est un paradoxe. Que ce soit les Nations Unies, via son Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ou des ONG internationales comme Greenpeace, tout le monde s'accorde à dire que la Turquie déverse moins de produits chimiques par hectare cultivé que la plupart de ses voisins européens comme la France ou l'Allemagne. Mais, et c'est là le paradoxe, des résidus de ces produits chimiques sont détectés plus souvent et en plus grande quantité dans les fruits et légumes turcs que dans ceux de ces autres pays européens. Comment expliquer ce paradoxe ? Ahmet Atalok, président de la Chambre des ingénieurs agricoles d'Istanbul.
C'est d'abord un problème de formation pour nos agriculteurs. Le problème, c'est moins l'usage de produits chimiques que le fait de ne pas respecter les dosages, les périodes d'utilisation, les temps d'attente avant la récolte ou d'utiliser des pesticides non adaptés aux produits agricoles traités. En Turquie, malheureusement, l'accumulation d'erreurs dans l'usage des pesticides explique en grande partie les niveaux importants de résidus dans nos fruits et légumes.
Il y a quelques années, la Chambre des ingénieurs agricoles a alerté le gouvernement avec succès, se félicite Ahmet Atalok.
Il y a 4 ans, nous avons choisi 10 fruits et légumes sur un marché. 7 d'entre eux présentaient des résidus anormaux de produits chimiques, dont certains étaient même interdits à la vente. Nous en avons informé le ministère de l'Agriculture. Depuis, le ministère a renforcé ses contrôles et s'est mis à inspecter non seulement les lieux de vente, mais aussi les lieux de production, c'est-à-dire les champs et les serres.
L'augmentation des contrôles semble porter ses fruits. En matière de produits chimiques, l'harmonisation des normes turques et européennes est désormais achevée. Le nombre de résidus interdits ou détectés en trop grande quantité diminue. Le gouvernement a développé un programme dit « de bonnes pratiques agricoles » qui délivre des certificats et accorde des aides aux producteurs respectant les normes. Ahmet Yaşar, l'agriculteur du marché de Seferihisar, en bénéficie depuis 2 ans.
Je me sens mieux informé. Avant, c'est vrai, j'utilisais ces produits chimiques sans trop savoir, en regardant faire les autres. Fatalement, c'est comme ça qu'on fait des erreurs.
Cela ne veut pas dire, loin de là, que les problèmes aient disparu, ni que les agriculteurs qui renoncent aux produits chimiques soient particulièrement aidés. Après plus de 15 ans d'agriculture conventionnelle, Asuman et Ismail Ermak, producteurs d'huile d'olive et de mandarine à Seferihisar, ont sauté le pas il y a 10 ans.
Nous sommes passés à l'agriculture biologique quand un cancer de la prostate a été diagnostiqué chez mon mari. Ses vitamines, ses engrais chimiques, ses pesticides, c'est ce qui l'a rendu malade. À l'époque, la mairie d'Izmir et celle de Seferi Hisar lançaient justement un programme pour encourager l'agriculture biologique.
Vous voyez tous ces insectes dans la bouteille ?
Dans les champs du couple Rmak, les herbes sont arrachées à la force des bras et non aspergées d'herbicides. Les insectes sont éloignés avec des pièges que fabrique Ismaïl. Tous les ans, pour chaque sorte de fruits ou de légumes récoltés, ils font venir des inspecteurs et obtiennent un certificat à leurs frais. Malgré l'aide financière de l'État, minime cela dit, le couple ne s'en sort plus.
Là où mon voisin vend ses mandarines 70 centimes le kilo, je vends mes mandarines bio pour une lira. Autant dire que je ne les vends presque pas. Ajoutez à ça le fait que les mandarines du voisin sont plus grosses et que ses arbres produisent plus de fruits grâce aux engrais qu'il utilise. Je ne peux pas rivaliser. J'ai donc décidé de vendre mes mandarines bio au prix des mandarines non bio l'an prochain. Je n'ai pas le choix, j'ai trop perdu ces dernières années.
Ces producteurs préfèrent donc vendre leurs mandarines à perte plutôt que d'augmenter leur production et diminuer leurs coûts en ayant recours aux produits chimiques. Mais ce choix demeure ultra minoritaire. L'agriculture biologique représente moins de 3% des terres cultivées en Turquie.
L'histoire ne dit pas s'il est bio ou pas, mais le fait est que la Serbie pourrait bien être le premier pays des Balkans à légaliser le cannabis. Jusqu'alors, la Serbie a mené une politique répressive à l'égard de sa consommation. Pour en parler avec nous, Laurent Rouy. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors c'est bel et bien avec étonnement que les Serbes ont pris connaissance de cette possible légalisation du cannabis.
Alors effectivement, donc c'est une grosse surprise, y compris d'ailleurs pour la population, tant la Serbie semblait figée dans sa position de lutte contre le trafic des diverses drogues, dont le cannabis. Rappelons donc qu'en Serbie, la loi ne fait pas de distinction entre les drogues douces et les drogues dures, et on peut vraiment aller en prison pour la possession de quelques grammes de cannabis. Enfin, ce sont les services secrets et pas la police qui sont en charge de la lutte contre la production et le grand trafic des substances psychoactives dans le cannabis. La proposition donc de légalisation est une surprise. Elle concerne les utilisations thérapeutiques du cannabis et émane de Milan Savic, le directeur d'un des hôpitaux de Belgrade, qui a, pour l'occasion, fondé une association. Alors Savic a déposé sa demande très officiellement au ministère de la Santé en s'appuyant sur l'expérience de divers pays étrangers qui utilisent le cannabis à des fins thérapeutiques, notamment pour mieux supporter les chimiothérapies anticancéreuses, pour faire soigner certaines scléroses en plaques et certaines maladies de l'œil.
Alors, quelle a été la réaction du ministère à cette proposition stupéfiante ?
Alors, encore une fois, il faut bien comprendre le contexte local. En Serbie, il n'existe ni n'a existé aucun débat sur le thème du cannabis et la demande de légalisation peut être considérée comme une authentique première, idem si on remonte à l'époque de la Yougoslavie. Et puis, surprise, le ministère de la Santé n'a pas du tout fermé la porte. Il y a même une création d'un dialogue et le ministère a formé un groupe de travail pour étudier la question. Le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de la Culture ont été conviés à la réflexion alors que le ministre de la Santé en personne a déclaré qu'il ne poserait pas de problème à la médecine si elle voulait utiliser des substances efficaces pour les patients, y compris le cannabis. Alors même si cette réaction des institutions politiques semble ouverte à la légalisation, cette dernière a peu de chances d'intervenir rapidement, puisqu'une telle décision devrait aussi être adoptée au Parlement, et là le docteur Savic le reconnaît lui-même, il est très difficile d'imaginer une date pour une possible légalisation.
Merci Laurent Rouy à Belgrade. C'est une guerre du genre qui agite l'Autriche. Elle oppose les parents d'élèves au ministère de l'Éducation. Ce dernier, en effet, préconise de ne plus recourir au seul masculin dans les consignes des manuels scolaires. L'intention est bonne, mais dans la pratique, l'apprentissage de la langue s'en trouve un peu compliqué, Nathanaël Vitran.
La grammaire allemande compte trois genres, mais si on essayait de traduire en français une consigne de manuel scolaire en respectant les préconisations du ministère autrichien de l'Éducation, voici ce que cela donne. donnerez. Vous travaillerez par deux, l'un ou l'une d'entre vous sera le lecteur ou la lectrice, l'autre sera l'auditeur ou l'auditrice. Vous devrez ensuite résumer le texte. Ça ne paraît pas si compliqué, mais écrit en résumé, lecteur / lectrice, cela vient sérieusement alourdir la phrase. Pour certains représentants des parents d'élèves, c'est une folie des genres. Ils et elles estiment que le politiquement correct n'a pas sa place dans les manuels scolaires quand il complique à ce point l'apprentissage de la lecture. L'un de ses parents s'agace, l'allemand est déjà une langue complexe et difficile à lire et on voudrait encore en exacerber les difficultés. Il s'inquiète aussi, va-t-on à terme pénaliser les élèves qui n'auraient pas pris en compte tous les genres dans leur dissertation ? Sur ce point, au moins, le ministère s'est voulu rassurant, il n'est pas question d'imposer cette règle aux élèves, mais simplement de promouvoir l'égalité des genres. Les parents d'élèves se défendent pourtant de vouloir défendre le statu quo. Il est tout à fait possible, explique-t-il, de formuler les consignes de manière neutre ou quand l'emploi d'un pronom est inévitable, on pourrait par exemple employer alternativement le masculin et le féminin d'une consigne sur l'autre. Peu importe, tant que la lisibilité reste la priorité. Surtout, ses parents ont du mal à croire que ce soit dans les consignes des manuels scolaires que l'égalité homme-femme se joue vraiment. « On ferait mieux de promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes autrichiennes », disent-ils en somme. L'inégalité des chances à l'école et après l'école est en effet bien réelle, et ce n'est pas qu'une question de langage.
Gaspard a dans ses affaires un sandwich complètement fou, un goûter extraordinaire qui va faire des jaloux.
Autre mesure qui concerne de près les enfants, cette fois dans l'est de la France, en Alsace, tout près de la frontière allemande, les autorités sanitaires veulent y supprimer la collation du matin dans les écoles primaires. Il faut dire qu'en Alsace, un enfant sur sept est en surpoids. Une proposition qui a aussi fait débat. Corinne Fugler a d'abord rencontré les principaux intéressés.
Des petits yaourts à boire, ensuite un rouleau au chocolat, et voilà.
Voilà le goûter de Gabriel, 5 ans, qu'il trouve habituellement dans son sac et qu'il mange de bon appétit à 10 heures. La collation matinale, c'est une habitude bien ancrée en Alsace, mais en voie de disparition dans les autres régions de France. Le goûter, en effet, c'est bien plus qu'un encas, c'est un vrai rituel. Catherine Kiefer enseigne à l'école primaire à Strasbourg. Empêcher les enfants de goûter, ce sera difficile. Elle veut plutôt les encourager à porter une pomme à l'école pour remplacer les bonbons et les gâteaux.
Je pense que ça servira à rien d'interdire. Il y a forcément des enfants qui vont emmener des goûters en cachette. Il y a une éducation au niveau des goûters à faire, c'est vrai. Il faut pas renoncer au goûter, il faut donner un goûter qui fait grandir, quoi. Qui permet de faire une pause dans la journée, que ce soit un goûter quand même agréable, que l'enfant aime, qui sera inscrit dans le rituel de l'école, et qui fera, à mon avis, pas grossir. Le goûter, c'est aussi le lien avec la maison. Le bon goûter, c'est maman qui l'a préparé.
Un enfant obèse avant la puberté a 20 à 50% de risque de le rester. Avec 14% d'enfants surpoids à l'entrée à l'école primaire, il faut traquer les mauvaises habitudes alimentaires et bannir le goûter. Marie Fontanelle est directrice adjointe de l'ARS, l'Agence régionale de santé.
C'est une pratique qui est défavorable pour la santé parce qu'elle génère un excès d'apport calorique qui est injustifié pour l'enfant. Et notre message, c'est vraiment de dire qu'il faut réinvestir le petit déjeuner, le goûter de l'après-midi, le dîner, quatre moments pour manger, mais le goûter intermédiaire provoque trop de risques de déstructuration du rythme alimentaire pour l'enfant et peut être un facteur de cause du surpoids et de l'obésité dans notre région, qui est déjà une région où la proportion d'enfants en surpoids et obésité est très supérieure à la moyenne nationale.
Du côté des parents, les avis sont partagés. Que faire par exemple quand les enfants partent pour l'école le ventre vide ? Ce serait le cas d'un enfant sur 10.
Moi, le petit, il mange pas beaucoup le matin quand il se lève. Souvent, il boit un peu de lait et puis c'est tout. Puis à l'école, il demande à ce qu'il y ait des fruits. Donc souvent, on achète des compotes, c'est pratique. Ou alors, on lui coupe une petite pomme en morceaux. Ça peut pas faire de mal. Hein.
Le goûter est un moment important de la journée pour les enfants. Et un moment de convivialité, donc je vois pas pourquoi on le supprimerait. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait laisser libre choix aux parents de donner le goûter qu'ils veulent à leur enfant. Et puis voilà.
Mais écoutez, moi, mon fils a pas de goûter à 10h. C'est un choix personnel. C'est qu'il déjeune bien le matin et ça lui tient jusqu'à midi.
L'idée, c'est de supprimer le goûter à 10h. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, après, les enfants, ils ont quand même trop faim. Et alors, moi, je préférais que ça reste toujours.
Pour lutter contre le coup de barre de 11h, il faut penser plutôt à aérer les salles de classe, recommande Valérie Bonneval du pôle santé et risques environnementaux de l'ARS.
Dans les salles de classe, ce qu'il faut savoir, c'est que la ventilation n'est pas obligatoire. Donc, dans les bâtiments anciens, notamment dans les écoles les plus anciennes, si on n'ouvre pas régulièrement les fenêtres, effectivement, l'air se renouvelle pas. Et c'est le dioxyde de carbone qui n'est pas un polluant grave, mais qui pollue l'air et qui peut engendrer des phénomènes de manque de concentration chez les enfants. Donc, ça, c'est prouvé. Si au moment de la récréation, l'institutrice ou les enfants ont pour consigne d'ouvrir la fenêtre, l'attention est bien meilleure au retour de la récréation. Et même si on ouvre la fenêtre pendant la matinée, ça marche aussi.
L'ARS lance donc une campagne anti-goûter via les professionnels de santé, les pédiatres et les établissements scolaires. En Allemagne, toute proche, où 15% des enfants sont en surpoids, le goûter matinal est toujours de mise à l'école. Selon l'étude européenne Idéfix, pour lutter contre l'obésité infantile, il faut aussi proposer aux enfants des activités sportives et s'assurer qu'ils dorment suffisamment. L'enjeu est de taille. Dans l'Union européenne, un adulte sur deux est en surpoids ou obèse et près d'un enfant sur trois.
Le reportage à Strasbourg de Corinne Fugler. Les grands musées emblématiques d'Amsterdam aux Pays-Bas accueillent chaque année des millions de visiteurs. L'affluence est encore plus forte depuis que le Rijksmuseum et le musée Stedelijk, équivalent du Louvre et du musée d'art moderne à Paris, ont rouvert leurs portes après de longs travaux de rénovation. Des musées qui font également évoluer leur modèle économique, cherchant à développer toujours plus de ressources propres et de recettes. C'est un reportage de Sabine Sessou.
L'ambiance est musicale au musée Van Gogh, comme tous les vendredis soirs, avec des programmations ponctuelles. Une façon d'attirer un public plus jeune qui peut boire une bière comme dans un bar. Les grands musées d'Amsterdam font le plein de visiteurs, mais aussi d'argent. Avec 1,5 million de visiteurs par an, le musée Van Gogh assure les trois quarts de son budget tout seul. Il réinvestit tout dans sa collection, mais aussi dans de grands travaux, comme ceux qui vont permettre en 2015 d'ouvrir une entrée plus grande à l'arrière du bâtiment. Milou Habema, la directrice marketing et communication du musée Van Gogh à Amsterdam.
Bien sûr, la collection Van Gogh est très importante pour nous, mais l'enrichir coûte très cher. Si nous voulons acheter une nouvelle toile ou être sûr de recevoir nos visiteurs dans de bonnes conditions, nous avons besoin de faire de gros investissements.
Les foules sont gérées à l'extérieur du musée où la file d'attente dépend du taux de remplissage. L'établissement ne dépasse pas le seuil de 7000 visiteurs par jour. Une fois à l'intérieur, le public ne se sent pas oppressé par la foule comme dans les musées parisiens. À deux pas du musée Van Gogh, le Rijksmuseum, une autre attraction touristique d'Amsterdam, les foules sont aussi au rendez-vous. Pas moins de 4000 millions de visiteurs ont été accueillis depuis la réouverture du bâtiment rénové en avril 2013. À raison de 17,50 €, le billet d'entrée, le Rijksmuseum peut tirer 40% de son budget de ses recettes propres. Wim Pybus, le directeur du Rijksmuseum.
J'aime monter ces expositions pour le grand public, avec de grands noms comme Rembrandt et Van Gogh, mais on peut aussi montrer les amis moins connus de Rembrandt, comme Hercule Segers, programmé en 2016. Le public du Brésil ou de France peut être surpris et intéressé.
La foule se presse encore au musée d'art moderne Stedelijk. Le musée a accueilli 1 million de visiteurs en un an. Le public profite aussi du café et de la grande librairie du Stedelijk où des chaises sont installées pour qu'on puisse feuilleter à l'aise des livres d'art. Une stratégie marketing qu'explique Margriet Schravemacher, conservateur en chef du musée.
À cause de la crise financière, les fonds publics baissent. Désormais, au XXIe siècle, les gens veulent combiner l'art avec le divertissement ou le shopping. Si le musée rassemble toutes ces possibilités, tant mieux.
La moitié du budget du Stedelijk provient de la ville d'Amsterdam. Depuis sa réouverture en 2013, la part des fonds propres est passée de 30 à 55%. Une tendance lourde donc pour les musées d'Amsterdam. Des établissements qui restent des fondations, mais qui fonctionnent de plus en plus comme des entreprises privées.
Accent d'Europe referme ses portes jusqu'à demain, 12h40 temps universel. Une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe.